الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنواصل بعون الله عز وجل قراءة ما تيسر من كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى شرحه الدكتور سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله تعالى. لقد وقفنا فيما مضى عند باب ما يوجب الغسل وصفته أو صفته. نعم. وقبل ذلك وقبل أن نواصل، من يذكر لنا ما هي نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى؟ نكيب نرابلي quels sont les annulatifs des ablutions que l'auteur a cité dans Manhaj al-Salikin. Mohamed. Bismillah. Tu les connais?
J'ai oublié, mais
c'est
dans ma tête. Mais
j'ai pas... Combien il en a cité, tu te rappelles?
Cinq.
Voilà, 8. Ahsant. Yalla, bismillah. S'ils ont une. Dans l'ordre, si possible, la première.
La sortie des deux
orifices. Barakallahu fik. Al-kharijou min as-sabilayn. D'accord ? Donc, premier annulatif de l'wudu, tout ce qui sort des deux orifices. Et est-ce que c'est sahih ou pas ?
Oui.
Est-ce que c'est la parole la plus correct. Non. هذا هو الراجح والحمد لله بي فيه اجماع عند العلماء الحمد لله. Bien sûr, tous les savants sont unanimes pour dire que tout ce qui sort des deux voies annule al-wudu. Islam. Un deuxième. C'est de moins en un.
Parmi les cinq ou les huit?
Parmi les huit.
Les huit.
Ouais. Donc la perte de sang en grande quantité, autre que ça parmi les liquides corporels. Donc le Cheikh Saadi, lui, est d'avis que ça annule el-wudu. Est-ce que c'est la parole la plus correcte ou pas? On avait retenu 5 annulatifs. Est-ce que
il
en fait partie? Non, il n'en fait pas partie. Donc, al-rajih, donc quand tu entends le mot al-rajih, ça veut dire l'avis le plus correct par rapport à ça, c'est que ça annule pas. Ça annule pas al-wudu. Na, barakallahu fik. Akhi al-Aziz.
Sommeil profond.
Na. Plus, on va dire, plus largement. Na. Zawalu. Al-aql. Na. Plus. De manière plus large, la perte de conscience. Ou la perte, non, perte de conscience. D'accord ? Lorsque tu... La perte de conscience, non. Et parmi les choses qui entraînent ça, le sommeil profond, ou autre que ça. L'évanouissement, l'anesthésie générale et autres. Non. Et est-ce que c'est al-rajih ? Non. Hada huwa al-rajih.
Le fait de se toucher de partie intime.
نعم. مس الذكر. مس الذكر. نعم. وبالنسبة لذلك قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى مس الذكر الناقض للوضوء هو إذا كان بشهوة. هذا هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والراجح ما هو؟ القول الذي رجحنا نحن.
ما كنت حاضرا.
ما كنت حاضرا. C'est quoi la parole qu'on a mis en avant la semaine dernière? Non, on a rentré dans les cinq. D'accord? Donc la parole qu'on a mis en avant, c'est celle-là. C'est que ça annule el wudu. Que ce soit avec désir ou pas. Avec envie ou pas. D'accord? Mais d'autres, comme Cheikh Al-Albani, ils disent que si tu touches tes parties sans qu'il y ait de désir, ça annule pas le wudu. Que ce soit pour nettoyage ou autre, ça annule pas. D'accord? Non. Combien ça fait 4 là? Hein? Encore 4. Mohamed. Même soumission. Non, mas. والشيخ رجح ماذا بشهوة أم بدون شهوة بشهوة donc le cheikh il a cité un des annulatifs qui est le fait de toucher une femme avec désir vous vous rappelez وهل هو الأرجح هذا القول أم لا لا الراجح لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة بدون شهوة الراجح c'est que ça annule pas le wudu que ce soit avec désir ou pas. وسؤال أخينا مالك الذي يعتقد بالقول بأن مس الرجل المرأة بشهوة ينقض الوضوء هل مس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء أم لا سألت الشيخ عادل السيد المصري حفظه الله تعالى وقال نعم يستويان في الحكم يستويان في الحكم والدليل ذلك القياس القياس فإذا كان مس الرجل للمرأة بشهوة ينقض الوضوء فكذا مس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء فهذا يعني مقتضى الطبيعة البشرية طيب ما من الرجل ما من المرأة نعم وهذا ينقض الوضوء للذين يعتقدون بذلك نعم donc concernant l'annulatif du fait de toucher la femme avec désir on a vu que الراجح c'est que ça annule pas mais pour celui qui a pris l'avis que ça annule est-ce que, du coup, l'inverse est aussi le cas? C'est-à-dire, est-ce que la femme perd elle aussi el wudu si elle touche son mari avec désir? Donc, le cher Adil Sayyid, hafidhahullah ta'ala, il m'a dit na'am. Les deux sont dans le même cas. Ils ont le même jugement par rapport à l'analogie, al-qiyas. À partir du moment où l'homme, lui, lorsqu'il touche la femme avec désir, ça annule. Et bien la femme également, si elle touche son mari avec désir, ça annule. Car cela fait partie de la nature humaine. Comme la femme peut avoir des désirs, l'homme peut avoir des désirs également. C'est un qiyas qui est clair. Non, Mohamed.
Il a pas posé la question. Si l'homme touche la femme avec désir, est-ce que ça annule l'ordre des deux hein?
C'était ça plutôt ben, si elle a un désir ouais. Du coup si elle a un désir ouais. D'accord mais encore une fois je pense que personne n'a pris cette, cet avis ici. Allahu a'lam. Personne n'est convaincu par cet avis ici. Je pense pas. D'accord? Alhamdulillah. Taïe. Combien il en reste?
3.
Oui, 3.
Nourdin.
Le
fait de manger la
veine
du chameau?
Non, Aklu lahm al-jazou. Aklu lahm al-jazou. Donc, le fait de manger la viande de chameau. Donc, est-ce que c'est rajih ou pas? Hada huwa rajih. Non. Donc, on a dit rentre dedans. Lahmou, shahmou. كبده تحاله مصرانه كرشه كل ما يؤكل. On a dit que rentrer dans la viande de chameau, tout ce qui se mange chez lui, la chair, la graisse, le foie, la rate, les intestins, les tripes. D'accord? Question. Labanou, son lait. Son lait ou alors l'urine ou le bouillon, des fois on a l'eau que l'on fait bouillir avec la viande. Est-ce que si on boit cette eau là, ce bouillon, est-ce que ça annule également le wudu ou pas? Imad,
on a parlé de manger, pas de boire.
Ahsan, non. Coup de maillot, hein? أكل لحم الجزور؟ نعم هذا هو الراجح هذا هو الراجح نعم دوك أما اللبن والمرق فلا وضوء عليه اللبن لبن الإبل ومرق الإبل فليس عليه أو ليس منه وضوء وإنما الوضوء من اللحم والشحم لا غير ذلك طيب هذا هو الراجح استحة الأحاديث الثابتة أي النبي صلى الله عليه وسلم donc concernant le lait du chameau ou on a dit le bouillon hein, que l'on fait cuire avec la viande donc il est en contact avec la viande ça annule pas le wudu ce qui annule le wudu c'est tout ce qui se mange du chameau tout ce qui se mange d'accord par rapport donc au texte authentique. Alors, les textes sont venus stipulant seulement tout ce qui se mange, l'ahmo, ce qui se mange. Mais concernant le lait, il n'y a aucun texte qui, justement, nous indiquerait qu'il faudrait refaire le wudu après avoir bu du lait ou el maraq ou autre. Vous voyez? Encore deux. Oussama.
Je
ne
sais pas ce que vous avez vu avant, mais... Il y a quand une personne a de l'hyperconscience,
oui. On l'a dit.
Oui.
Ouais. Bon, c'est pas
grave. L'avant ou l'arrière.
On l'a dit. Mohamed.
Tarsil al-mayyit.
Eh, non. Tarsil al-mayyit. Tarsil al-mayyit. Warrajih, mahoua. C'est quoi le raj? Est-ce qu'on a rendu cet avis-là, on va dire, la plus correcte ou pas?
Non.
Rajih, le fait de laver le mort, ce qui est correct, c'est que ça annule pas les ablutions. Il en reste arcane, un seul. Hein? Un seul. Il en reste un seul. Ouais. Arinda. Ah non. D'accord, ouais, taïb, alhamdulillah, redda, jayid. Est-ce que c'est rajih? Non. Donc l'apostasie, alhamdulillah, l'arajah, il n'y a pas de doute que ça annule el-wudu, parce que ça annule toutes les œuvres. Pas seulement el-wudu, mais ça annule toutes les œuvres qu'Allah nous en préserve.
Amen.
Donc en tout, on a validé combien? Validé, 5. 5. Et après, bien sûr, chacun... Il regarde les preuves et il peut se faire sa propre opinion à ce sujet-là.
Vous avez vu aussi qu'il y en a qui sont d'avis que le vomissement et le feu qui touche la viande aussi, ça annule les ablutions.
Le feu qui touche la viande, ça annule les ablutions.
J'ai vu ça.
Mais comment on va toucher le feu, ça?
Non, non, la viande qui a été touchée par le feu.
Ah.
Il y a un col sur ça aussi. Là, voilà. Mais même Cheikh Saadi l'a pas cité, je pense. Après le vomissement, ça rentre dans le dam al kafir ou nahwu.
Comme le rajih, ça?
Là, là, là.
D'accord.
Par rapport à quoi, les vomissements, tout ça? Et ça, le rajih. Est-ce que c'est bon, Yahan? Yahoulou. نعم باب ما يوجب الغسل وصفاته ما هو الغسل كي نو رابا سي كو الغسل لا ديفينيسيون دو لا سيمين ديرنيير بسم الله يا اخوان pouvez lire ce que vous voulez vas-y
c'est de faire en sorte que le corps tout entier soit touché par l'eau purifiante d'une manière particulière
احسنت جيد en arabe تعميم البدن بالماء الطهور تعميم البدن بالماء الطهور على وجه مخصوص d'accord هذا هو الغسل يقول الشيخ رحمه الله ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين أو بالتقاء الختانين المني هو السائل الذي يخرج بدفق ولذة عند الجماع إذن هنا شرطان أن يكون خروج المني بدفق ولذة عند الجماع أو عند غيره أو المباشرة كما يقال المباشرة أو النظري أو الاحتلام فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ولحديث أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء أخرجه البخاري ومسلم donc dit le sheikh concernant le غسل il dit que le غسل est obligatoire premièrement après l'état de al-janaba pour enlever l'état de al-janaba Donc, al-janaba se produit premièrement par la sortie de al-mani, le sperme. Al-mani, c'est le sperme. Que cette sortie-là ait été causée par le coït ou autre que le coït. D'accord ? Donc, al-mani, c'est un liquide. C'est le liquide qui sort na'am de deux manières avec vigueur, avec force. Un liquide qui va sortir avec un jet qui est puissant, qui est fort. Et deuxième caractéristique de ce liquide, c'est qu'il sort avec ladha. Avec de plaisir. Tu ressens du plaisir, une jouissance. D'accord ? Donc, pour que cette sortie-là entraîne l'obligation de faire al-rusl, il faut qu'il soit sorti avec yani, une éjaculation d'afq et avec un plaisir. Que ce soit causé par le coït, al-jima', ou tout simplement al-mubashara, yani des contacts avec son épouse, même sans qu'il n'y ait de rapport. Ou un regard, ou un rêve, d'accord, quelle que soit la cause. Dans ce cas-là, le ghusl sera obligatoire, que cette éjaculation s'est produite durant le sommeil ou pas. En vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens rapproché, ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تختصروا. Il faut voir parce qu'il a ramené que le morceau du verset. Est-ce que tu peux regarder, inchallah, juste la traduction? Sourate An-Nisa, verset 43. Et également le ayah, verset 6 de sourate Al-Ma'ida, lorsqu'il dit dans le sens rapproché, وإن كنتم جنبا فطهروا. Et donc si vous êtes en état de janaba, purifiez-vous. Et également le hadith de Umm Salama, qui a dit que Umm Sulaym s'est rendue auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô messager d'Allah, certes Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit faire al-ghusl lorsqu'elle a fait un ihtilam, c'est-à-dire lorsqu'elle a eu une éjaculation pendant son sommeil? Il lui a dit oui, si elle voit le liquide. Donc là, on comprend que la condition, c'est pas juste le rêve. D'accord? Il se peut que tu aies fait un rêve, mais tu constates qu'il n'y a pas de liquide. Dans ce cas-là, il n'y a pas de ghusl à faire. D'accord? Donc, si tu as fait un rêve et que tu constates bien qu'il y a un liquide qui est sorti, le sperme qui est sorti, non, dans ce cas-là, oui. Taïeb? Alhamdulillah. Et si tu vois du liquide, mais que tu ne te souviens pas d'avoir fait un rêve, est-ce que tu dois faire le ghusl également ou pas? Oui, bien sûr. Parce que ce qui est pris en compte, ce n'est pas le rêve en fait en lui-même, mais c'est l'éjaculation. D'accord, les frères? Maintenant, troisième situation possible. Tu ne te souviens pas d'avoir fait un rêve et tu constates qu'il y a un liquide. Mais tu n'arrives pas à savoir si c'est du sperme ou pas. Parce qu'il se peut que ce soit autre chose. Du mévi. Le liquide qui sort des fois quand on est excité, ça c'est pas du sperme, c'est du mévi. Et ce liquide-là, il sort sans éjaculation, sans rien. Ou carrément des fois de l'urine, Allah Alim, pendant ton sommeil, tu sais pas. En général, l'urine, on arrive à savoir. Mais des fois, on n'arrive pas à distinguer. Comment on fait? Dans le doute, comment on fait? Par précaution. Puis tafsil. Il y a beaucoup d'avis à ce sujet. Mais al-rajih, c'est que al-yaqinu la yazulu bishak. La parole la plus correcte, c'est que la certitude ne disparaît pas avec le doute. Tant que tu n'es pas certain que ce n'est pas du sperme, il n'y a pas de rousse. Pas de rousse. Bien sûr, le wudu, en tous les cas, le wudu, nettoyer ce liquide, parce que si c'est du mévi, c'est impur. De l'urine, bien sûr, impur. D'accord? Mais le rousse, là. Pourquoi? Parce que l'état de janaba ne peut se produire qu'avec la certitude. Tant que tu es dans le doute. C'est comme pour le wudu. Toi, tu as fait le wudu. 2 heures après, tu doutes. Est-ce que j'ai le wudu ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu considères que tu as le wudu. Pourquoi? Parce que le doute n'enlève pas la certitude. La certitude ne peut être enlevée que par la certitude. Que par une autre certitude. D'ailleurs,
Le mani est impur.
Le mani, radih la. C'est correct, parce que le sperme, lui, par contre, il n'est pas impur. Le sperme, lui, par contre, il n'est pas impur, comme on a vu dans le cours précédent.
Ah, d'accord.
Ça rappelle ou pas? Non.
C'était pas là.
C'était pas là? Bonne excuse. Hein. À chaque fois, tu vas la sortir. Le hajj, il a duré un an, là. Je rigole. D'ailleurs. Est-ce que c'est bon, Iran? ثم يقول أو بالتقاء الختانين. Donc, on a dit l'état de janab est provoqué soit par l'éjaculation, soit ce qu'on appelle la rencontre des deux khitan. La rencontre des deux khitan. Donc littéralement des deux circoncis. D'accord? يقول الشيخ الختانان هما ختان الرجل وختان المرأة والمراد تحاذيا أي إذا تحاذيا الختانان وذلك بتغييب الرجل ذكر كله أو بعضه في فرج المرأة فيجب الغسل بذلك وإن لم ينزل وإن لم ينزل يجب الغسل بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل أخرجه مسلم والمراد من المس ليس يعني مجرد المس وإنما هو الإيلاج الإدخال الإيلاج التغييب لا حقيقة المس بإجماع العلماء والحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أخرجه البخاري ومسلم وزاد مسلم في رواية وإن لم ينزل واضح. Donc الختان les deux ختان les deux circoncis eh bien ça concerne bien sûr le sexe de l'homme et le sexe de la femme. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour que ce soit plus propre au niveau des expressions, il a utilisé le khitan. Et on voit ici l'importance aussi d'utiliser des mots, hein, alhamdulillah, de ne pas utiliser des mots trop vulgaires ou trop familiers. Alhamdulillah. Donc, les deux khitan, les deux circoncis. D'accord? Et en vérité, c'est le khitan, c'est plus précisément l'endroit qui a été coupé. L'endroit qui a subi justement la circoncision.
La femme se circoncise ?
Bien sûr, elle peut.
Pardon ?
Bien sûr, naam.
Obligatoire ?
La. Al-rajih mustahab. Obligatoire pour l'homme, recommandé pour la femme. D'accord ? Et c'est une chose qui se fait encore. Notamment dans les pays d'Afrique et tout, ça se fait encore.
Mais oui, ça se fait en Égypte.
Ça se fait encore.
En Égypte surtout.
En Afrique noire.
En Égypte aussi, en Égypte c'est connu.
Ouais.
Ouais.
Vous êtes sûr?
Quand?
En Afrique ça se fait. Sûr, ouais, sûr.
En Afrique.
Moi je te parle des pays d'Afrique noire. Hein.
Ouais.
Après l'Égypte, c'est pas.
L'Égypte, oui, elle est connue. Ouais, ouais, c'est connu.
Parce qu'en Tunisie, pas pour l'Algérie, on est normal.
Non, non, on ne parle pas.
Oui, oui. Après, le Maghreb, je ne sais pas.
Le Maghreb, non, ils ne le font plus.
Ils ne le font pas.
Ils le font pas. Mais en Égypte, oui, ils le font.
Là, c'est recommandé. Shara'an, dans la législation islamique, c'est quelque chose de recommandé. Donc, il y a des vertus en cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu presque... au regard des gens, il y a ni une barbarie, Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Donc, ce qui est visé ici, c'est lorsque les deux sexes se rencontrent. Tahadaya, se rencontrent et se touchent. Mais c'est plus que le toucher. C'est pas seulement le toucher, c'est plus que ça en vérité. C'est à partir du moment où l'homme a introduit donc son sexe tout entier ou une partie. D'accord ? le minimum qui fait que cela va entraîner l'état de janaba huwa ilaj al-hashafa. Al-hashafa, justement, c'est la partie qui a été donc qui n'est plus enveloppée par la peau parce qu'on a coupé justement cette peau là. Hein, le gland. Al-hashafa, c'est le gland. Donc si l'homme a introduit moins que la totalité du gland, ça provoque pas al-janaba. Il faut qu'il introduise minimum cette partie-là. C'est bon, Dorothée ? C'est clair ? Moi, là, c'est précis. Parce qu'il y en a qui croient peut-être que juste le fait de toucher ou d'effleurer, ça provoque l'état de janaba. Non. Il faut qu'il y ait cette introduction-là, minimum. Même si il n'y a pas éjaculation. Dans ce cas-là, l'éjaculation n'est pas une condition. Non. Et cela en vertu du hadith d'Aïcha, qui a dit que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la personne, littéralement, là on voit encore les choix des mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est assis entre les quatre membres de la femme. C'est assis entre les quatre membres de la femme. Certains disent que ça représente les mains et les jambes. D'autres disent les jambes et les cuisses. D'autres disent les pieds et les cuisses. Et bon, bref, on comprend en fait qu'est-ce qu'il veut dire par là. Lorsque l'homme a un rapport avec sa femme. D'accord ? Et que les deux khitans rentrent en contact, eh bien dans ce cas-là, il y a obligation de faire le rousseau. D'accord ? Et on a dit que cela désignait vraiment la pénétration. Là. Et également le hadith d'Abi Hurayra, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque la personne s'assoit entre les quatre membres de la femme, thumma jahadaha, c'est-à-dire puis qu'il a un rapport avec elle, pénétration, eh bien cela entraîne l'obligation de al-rusl. Donc le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim, mais dans la version de Muslim, il y a en plus wa il lam yunzil, et même s'il n'éjacule pas, même s'il n'y a pas éjaculation, cela provoquera forcément l'obligation de al-janab. Wadih.
La personne qui croit avoir été en état de janab et qui a fait donc, mais alors qu'elle n'est pas en état de janab, elle a fait une rousse sans faire le wudu. Elle fait la prière.
Est-ce qu'elle était en état de janaba ou pas?
Non, elle n'était pas.
Elle n'était pas.
Elle le croyait. De par son ignorance, par exemple.
Et puis elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas.
Non.
Dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, il faut qu'elle fasse les ablutions et qu'elle refasse sa prière.
D'accord.
Parce que le fait de ne pas être en état de janaba, de faire juste le rousl, ça n'enlève pas l'état de hadath al-asghar. D'accord ? Le rousl, après on va le voir de toute façon, le rousl qui enlève l'état de hadath al-asghar, c'est lorsque tu es en état de janaba. Mais le rousl du vendredi, voilà, comme ça vous comprenez bien, le rousl du vendredi, Rajih, c'est qu'il n'est pas obligatoire. Mustahab, d'accord ? Et ce rousle-là du vendredi, est-ce qu'il enlève un état particulier ? Il n'enlève rien du tout. Tu te laves avec, c'est tout. Tu te laves, tu enlèves les saletés si tu as des saletés sur toi. Tu te laves. Mais est-ce qu'il enlève al-hadath, al-asghar ou al-akbar ? Là. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas en état de janaba. Donc celui qui s'est levé le matin, qui n'a pas fait le wudu, il fait le rousl, après il va prier le jumu'ah. Lui, il n'a pas enlevé son état d'impureté mineure, le hadath al-asghar. Comprenez? Lui, il est obligé, s'il veut faire le ghusl de vendredi, il sera obligé de faire le wudu aussi. Soit avant, soit après. Sunna, c'est avant. Comprenez?
Je répète. Quand tu te laves les mains,
voilà. Ça, c'est la sunna dans le ghusl. Donc, toi, si tu fais la sunna dans le ghusl, alhamdoulilah. C'est-à-dire, tu mets l'intention de l'eau, tu fais l'eau, et après tu laves le reste du corps. Mm-hmm. Moi, je parle de celui qui a fait le ghusl, mais sans faire la sunna. Il fait une douche. Et il n'a pas fait l'eau, etc., etc. Lui, il n'a rien enlevé du tout. Il s'est juste lavé, c'est tout. Sauf s'il était en état de janaba. Si tu es en état de janaba, et que tu fais juste le ghusl shar'i, avec l'intention, bien sûr, du rousle. Il faut mettre l'intention aussi. Ce n'est pas juste l'intention de se refroidir. Oula, là, de faire le rousle. Dans ce cas-là, na'am. Dans ce cas-là, il a enlevé ces deux états. L'état de l'hadith al-akbar et l'ashar en même temps. Parce que les ulama disent, à partir du moment où tu enlèves l'akbar, forcément l'ashar, il s'enlève en même temps. Ça y est, paumé.
En fait, quand il y a l'état de janaba, tu m'as dit que on fait la douche et on ne fait pas les petites ablutions ou...
Tu peux faire juste le ghusl légiféré. Tu as le droit.
Normal,
Tu mets l'intention de le ghusl, d'enlever ton état de janaba, bismillah, et tu fais en sorte que l'eau ait coulé sur tout ton corps. Et tu n'oublies pas la bouche et le nez. Tu n'oublies pas le cuir chevelu, la racine des cheveux. Tu n'oublies pas l'intérieur, enfin les oreilles, etc. Le nombril. Dans ce cas-là, c'est bon. Mais si tu n'étais pas en état de janaba, tu ne peux pas faire ça. Tu seras obligé de faire le wudu. D'accord ?
Quand on fait le ghusl de vendredi, après on le fait comme on fait celui de janaba. Pas forcément quand on est en janaba. Ça veut dire que c'est bon.
Comme il l'a dit le frère, c'est-à-dire avec le wudu et tout.
Oui.
Ouais, c'est bon. Oui, parce que...
On n'est pas forcément à janaba.
Oui, parce que dans ce cas-là, tu as incorporé le wudu dedans.
Oui.
Et c'est ça la sunna. Le mieux, c'est de faire ça. Le mieux, c'est... La sunna, c'est quoi? Le ghusl shar'i. Mustahab. Tu te laves les mains. On verra de toute façon. Tu te laves les mains après les parties. Après, tu fais le wudu. Hein? Après, tu verses de l'eau sur ta tête. Après, le côté droit, le côté gauche. D'accord? Si tu fais ça, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. Moi, je parle de ceux qui se contentent juste de faire la douche et ikhlas. C'est bon, écran. Qu'est-ce qui se passe?
Tu vas le faire.
Ça va être compliqué. Ah oui, parfait. Il y a une douche ici, quoi. Allez, c'est parti. Donc, là ils disent voilà, junuban illa abiri sabil. Non. À moins que vous ne soyez en voyage jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Non. Non. Et aussi quand vous êtes en état d'impureté, c'est-à-dire majeur, à moins que vous ne soyez en voyage jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Al-Muhim, voilà. C'est le verset qu'il a pris les chers pour dire que le ghusl est obligatoire lors de la sortie du liquide spermatique. Wallahu a'lam. Est-ce que c'est bon, Ikhwan? Thumma yaqul al-shaykh al-sa'di rahimahullah wa khuruj دم الحيض والنفاس فيجب على الحائض والنفساء الغسل إذا طهرتا لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله معنى قوله تطهرنا أي اختسلنا. معنى قوله تطهرنا اختسلنا. ولحديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، أخرجه مسلم. Donc la deuxième chose obligeant de faire le ghusl. La première, on a dit « al-janaba ». Deuxième, la sortie de sang des menstrues ou des lochis. « Al-hayd » ou « al-nifas ». Donc les menstrues et les lochis. Les lochis, c'est le sang qui coule après l'accouchement. D'accord ? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le sang qui coule après l'accouchement. Et cela peut durer au maximum combien ? 40 jours. 40 jours. Comme a fait le hadith. 40. Mais s'il s'arrête de couler avant les 40 jours, la femme doit se purifier et se remettre à prier, etc. Et si ça dépasse les 40 jours, elle se purifie et elle prie aussi. Elle prie. Et on considère qu'elle est en état de métrorragie. Métrorragie, istihada. Istihada. Donc elle, elle a un jugement particulier. D'accord ? Dit le cheikh, celle qui a ses menstrues ou celle qui vient d'accoucher, elle nous fait ça, elle doit... et faire le ghusl une fois qu'elles se sont purifiées, c'est-à-dire une fois que le sang a arrêté de couler. En vertu de la parole d'Allah Azza wa Jal, de le sang se rapprocher, et n'approchez pas d'elle jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. Et lorsqu'elles se sont purifiées, eh bien, cohabiter ou ayez des rapports avec elle selon la prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou comme Allah jalla wa ala vous a prescrit, c'est-à-dire d'une manière licite. D'accord ? Ayez des rapports avec elle de manière licite. Donc le sens de sa parole jalla wa ala tatahharna ay ikhtasalna, c'est-à-dire une fois qu'elles ont fait al-ghusl. Donc là, on comprend quoi ? On comprend que si le sang a arrêté de couler, mais qu'elle n'a pas encore fait le ghusl, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports avec elle. Et là, on le comprend par rapport à la précision de la langue arabe. Pourquoi ? Parce qu'au début du ayah, il dit « hatta yathurn ». Yathurn, c'est-à-dire une fois que le sang a arrêté de couler. Mais après, il dit quoi ? Fa'idha tataharna. Là, c'est une fois qu'elles se sont purifiées. C'est-à-dire qu'elles ont fait le ghusl. D'accord ? Donc, il faut deux conditions. L'interruption de l'écoulement du sang. Et la deuxième, que la femme ait fait le ghusl. Pour que son mari puisse avoir des rapports avec elle. Vous voyez ? Également, le hadith d'Aïcha, qui a dit qu'Ummi Habiba bint Jahsh radiyallahu anhuma s'est plaint auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des métrorragies, de l'istihada. L'istihada, en fait, c'est le sang qui coule, hein, qui sort de la femme, mais c'est pas le sang des menstrues. C'est pas le sang des menstrues.
Après les 40 jours.
C'est le sang des veines. Ouais, ça peut être après les 40 jours après l'accouchement, mais ça peut être aussi en dehors des périodes de menstrues. Donc des fois, en dehors des périodes de menstrues, il y a des coulées de métrorragie.
Sans qu'il y ait accouchement avant.
Ouais, ou alors après les 40 jours.
Jamais eu d'enfant.
Voilà, ou après la femme d'habitude, elle a par exemple 7 jours de menstrues, et là, après les 7 jours, ça continue, et elle va aussi par rapport au sang, c'est pas le même. Tu le vois par rapport à la couleur, par rapport à l'odeur, tu vois que c'est pas du sang de monstre. Mais elle, elle peut prier. Elle peut jeûner. Elle doit même prier. D'accord ? Sauf que elle devra faire le wudu dès que l'heure de la prière est entrée. Elle fait le wudu à chaque heure de prière. Elle est obligée. Et elle se préserve en mettant du coton ou un tissu. Pour pas que... Voilà. Et il est recommandé qu'elle fasse le rousl. Pour le fajr, un rousl. Pour le dhuhr et l'asr, un rousl. Et pour le maghrib et l'isha, un rousl. Ça, c'est mustahab. C'est motivé, fait ça. Mais ce qui est obligatoire, c'est un wudu pour chaque heure de prière. Et avec ce wudu-là, elle peut prier tant qu'elle veut. D'accord ?
Mais toujours pas de rapport avec son mari.
Si, elle peut. Ah. Elle peut. Bien sûr, elle peut. On a des rapports avec le mari. Alhamdoulilah. Donc, le hadith de Habiba qui est venu se plaindre. Il lui a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Kufi, c'est-à-dire retiens-toi de prier, d'avoir des rapports, etc. Durant la période habituelle de tes menstrues. D'accord ? Si par exemple tu as l'habitude d'avoir des menstrues pendant une semaine, retiens-toi pendant une semaine. Thummartasili. Passé cette semaine-là, fais le rousl et prie, et alhamdoulilah. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la preuve que le sang des menstrues et le sang des lochis engendrent l'obligation de El Rous. Est-ce que c'est clair, les frères ? Alhamdoulilah.
Le Rous, là, qui est recommandé, il nécessite quand même le loup à côté pour les métrocagés.
Oui.
Mais à côté, ça veut dire qu'elle fait le rousl, ensuite elle fait le wudu.
Oui, non. Et le wudu, il est obligatoire à chaque heure de prière, comme on a dit.
Non, mais avant le fajr, elle fait le rousl.
Elle fait le rousl, si elle veut, c'est recommandé, mais elle fait aussi le wudu. Parce qu'elle n'est ni en état de monstru, ni en état de logis, ni en état de janaba. Par contre, si elle est en état de janaba, d'accord ? Si elle est en état de janaba, elle a eu un rapport avec son mari, dans ce cas-là, elle fait que le rousl. Ça suffit. D'accord ?
Mais le wudu qui est compris dans le rousl ne compte pas comme un wudu.
Si.
Donc, il faut mettre l'intention de faire.
Tu mets l'intention de le wudu et de le rousl en même temps.
Ah, d'accord.
Eh oui.
C'est dans une douche.
C'est quoi ? C'est la douche. Lorsqu'on est en état de Genève qui vaut rousl et wudu. Ou est-ce que c'est parce qu'on fait le wudu en même temps qu'on fait la sunna ou on,
non, non, non.
C'est juste la douche qui vaut les deux.
Alors, j'explique bien. Il y a deux façons de faire le rousl. Il y a deux façons. Il y a la façon qui est recommandée, c'est la sunna, de commencer par le wudu, enfin d'abord laver les parties, après faire le wudu. D'accord ? Et la deuxième façon, faire en sorte que l'eau ait coulé sur tout ton corps. Sans oublier le nez et la bouche. Il y a deux façons. Le problème, c'est que la deuxième façon, là, elle qui est plus simple, si tu n'es pas en état de janaba, eh bien, ça n'enlève pas ton état de hadath, el-asra. Ça ne l'enlève pas. Donc, tu seras obligé de faire el-wudu. Mais la première façon de faire, alhamdoulilah, elle contient le wudu. Elle contient le wudu. Donc même si tu n'es pas en état de janaba, ça va enlever quand même ton état de hadath, al-asra.
Et la deuxième,
La deuxième, si tu en es... Non, si.
Elle enlève.
Voilà. Si tu es en état de janaba, la deuxième, elle enlève. Pourquoi elle enlève ? Parce qu'à partir du moment où ça enlève ton état de hadath akbar, ça enlève forcément l'état de hadath asghar. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Islam ? J'utilise les termes en arabe. C'est bon, tu les comprends ces termes-là ? Hadith, Asghar, Akbar.
Pour la première, il faut mettre la niya de faire l'irtisal pour Yom Jumara et la niya pour faire l'oulou.
Non.
Les deux niya.
Eh non, bien sûr. Parce que moi, tu mets niya d'enlever ton état de Hadith et Asghar. Il faut que tu mettes cette niya-là. D'accord ? Cette niya, il faut que tu la mettes. Et la niya du vendredi, pas de mal, alhamdoulilah. C'est bon ?
Celui qui fait le rose sans les ablutions, sans la sunna. Il a oublié le nez et la bouche, c'est quoi le rose ? Il a oublié le nez et la bouche.
Celui qui a fait le rose là, sans la sunna, il n'a pas fait le nez et la bouche ? Et il est en état de janaba ?
Non, de janaba.
Al-Raja, c'est que son rose, il n'est pas bon.
Non, s'il était, il ne savait pas.
Même s'il ne savait pas, et comme il n'a pas commis de péché, inshallah, mais il faut qu'il refasse le rousse correctement. Sachant que le rousse, en plus, il n'y a pas la condition de la continuité. C'est une faïda aussi, pour ceux qui veulent savoir. Ce n'est pas comme le wudu. Le wudu, tu dois enchaîner les membres. Tu dois enchaîner le visage, les bras, la tête, les pieds. Alors que le rousse, lui, tu n'es pas obligé. Cheikh Saleh al-Sheikh, hafidhahullah ta'ala, dans Sharh al-Arba'in al-Nawawi, des 40 hadith al-Nawawi, je ne sais pas si tu te rappelles l'islam, on a fait ça vite trop. Il a dit, par exemple, celui qui n'a pas envie de se mouiller les cheveux le matin. Alors imagine, voilà, tu as eu un rapport avec ta femme le soir, la nuit. D'accord ? Et tu te dis, je vais faire le ghusl demain matin avant le fajr. Mais tu te dis, ouais, mais si je me mouille les cheveux avant le fajr et que je vais sortir après pour aller à la mosquée, je vais tomber malade. Je vais attraper froid parce que je vais avoir les cheveux mouillés. Il dit le cheikh, tu as le droit de laver tes cheveux la nuit, tu dors, donc tes cheveux vont sécher, ils sont secs, et de laver le reste du corps avant le fajr.
C'est bon ça.
Hein ?
C'est bon ça.
C'est bon. Donc pour revenir à ce que tu disais, si par exemple quelqu'un il a oublié le nez et la bouche, ben, il le fait après, tu vois. Il le fait même si des heures plus tard il peut le faire. Taïeb. Thumma yaqul wa mawti ghayri shahid. Wa mawti ghayri shahid. يقول فالموت يوجب الغسل الموت يوجب الغسل لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته رضي الله عنها فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأما الشهيد فلا يجب تغسيله لا يجب تغسيله بل لا يغسل الشهيد الذي قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ثم قتل ثم قتل في المعترك ومات في المعترك نعم هذا لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل لحديث جابر رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن قتل أحد في دمائهم أمر بقتل أي الموتى غزوة أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم أخرجه البخاري Donc la troisième chose obligeant de faire le ghusl al-maut la mort. Dans ce cas-là, c'est pas toi qui va le faire, aussi. On va le faire pour toi. On va le faire pour toi. T'as pas le choix. La mort. Excepté Ash-Shahid, le martyr. Et bien sûr, c'est pas n'importe quel martyr. Il dit ici, la mort d'un grand obligatoire à l'Rusul. En vertu du hadith de Ummi Atiyya, radiallahu anha, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est entré alors que nous étions en train de laver sa fille. Les ulama disent que sa fille, c'est Zaynab. Radiallahu anha. C'était la plus grande, la plus âgée de ses filles. Subhanallah. Il est rentré, il a dit, lavez-la trois fois, ou cinq fois, ou plus. C'est-à-dire, si trois fois ça ne suffit pas, cinq fois. Si cela ne suffit pas, plus. Mais toujours un chiffre impair. Avec de l'eau et cidre. Un cidre, à la base, c'est un arbre. En français, ils disent le jujubier. Le jujubier. Et bien sûr, c'est pas tu vas laver le mort avec les branches ou l'arbre. Non. Les lamas disent, tu prends les feuilles de jujubier, tu les écrases, hein, puis tu les mélanges dans l'eau. Et avec cette eau-là, tu laves. Ils font toujours ça. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Concernant maintenant Al-Shahid, le martyr, dit le Cheikh, il n'est pas obligatoire de le laver. Au contraire, on ne le lave pas. Mais ce n'est pas n'importe quel Shahid. D'accord ? C'est le Shahid qui est concerné par ce hukm, c'est celui qui est mort sur le champ de bataille. Et qui a combattu dans le sentier d'Allah Azzawajal, d'accord, dans une guerre légiférée, avec l'intention que la parole d'Allah, la religion d'Allah soit la plus haute et la plus élevée. Hada huwa shahid, qui est concerné ici. Parce que il faut savoir que celui qui meurt, par exemple, noyé ou dans un incendie ou dans un effondrement, on dit qu'il est shahid. Mais il n'a pas le même jugement que lui. Eux, naam, on les lave, on les enveloppe d'un linceul, on prie sur eux. Mais celui qui est mort sur le champ de bataille, lui, non. D'accord ? Par contre, celui qui a été blessé sur le champ de bataille et il est mort après la fin de la bataille. Il est rentré chez lui, mais après il est mort de ses blessures. Lui, on prie sur lui. Il n'est pas concerné. On prie sur lui, etc., etc. On le lave. Celui qui est concerné ici, c'est que celui qui est mort sur le champ de bataille. Avant même que la bataille est terminée. C'est terminé. Taïeb ?
Mais celui qui est mort chez lui, il est shahid quand même.
Donc voilà, c'est pour ça, on revient toujours. Il a la récompense, bi'idhnillah, du martyr. Mais il n'est pas concerné par ça, par le fait qu'on le lave pas. Voilà, d'accord. Mais la récompense, bi'idhnillah, on l'espère pour lui. On l'espère pour lui.
On ne prie pas sur le martyr.
Celui-là, on ne prie pas.
Pardon.
Sur celui qui meurt sur le champ de bataille.
On ne prie pas sur lui.
Non. Ni on le lave, ni on l'enveloppe du linceul, et ni on prie sur lui.
Et dans quel badr c'est particulier en fait? Non, le badr, non, le houd. C'est particulier.
Tu as vu qu'il a été rapporté qu'ils ont prié?
Même que Hamza en était toujours là.
Ils ont prié sur Hamza?
Et tous les autres.
Allah Alam. En tout cas, ce que j'ai vu moi, Ar-Rajih, c'est que tu ne pries pas sur eux. Non. Mais j'ai vu qu'il y avait une divergence.
Non, d'accord.
J'ai vu qu'il y avait une divergence sur la prière. Sur la prière. Mais concernant le linceul et le lavage, Allah Alam, il n'y a pas de divergence. Mais sur la prière, لكن الراجح والله أعلم لا يصلى عليهم كم يجي يسي parce que là le hadith est clair أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدفن قتل أحد en plus il parle de ce qui était tué à أحد hadith est clair ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم il a dit là on n'a pas prié sur eux
lui il a dit Badr
non t'as dit أحد
non j'ai vu ça dans le Kathir
il a dit أحد Donc peut-être que parce que là c'est le Bukhari, là c'est Sahih al-Bukhari. Ibn Kathir des fois, il se peut qu'il y ait des hadiths. Wallah. En général, dans Ibn Kathir c'est bon, mais wallah. D'accord. Là qu'il y a un rajih, on ne prie pas sur. On ne prie pas sur.
Et le policier qui meurt durant une rixe, c'est quoi? Il est considéré.
Non, on a dit fil harb. On a dit fil harb contre le kuffar. Pour Allah Azza wa Jalla, pour la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dans le champ de bataille.
Dans le champ de bataille.
Juste le nom de celle qui a rapporté le hadith.
Et d'un djihad légiféré, avec un gouverneur, etc. etc. Attention, c'est pas Daesh et la compagnie.
Le nom de la femme qui a rapporté le premier.
Lequel?
Celui de Abel et celui de.
Celui de. Du Shahid? Ou celui de. Al-Maut? الشهيد سي جابر اي الموت سي ام عطيه معطيه نعم عافيك بارك الله اسكو سي بون يا خو سلام تما تجي وي تما نغيبي سي با دكون بار N'hésite pas, Akhi.
Non, mais j'ai suivi.
T'as suivi là,
la prière du mois.
Ouais.
Sur qui tu pries, sur qui tu pries pas. Tu as le droit de prier sur.
Non, en fait, on parlait de des choses qui rendent obligatoire le rousse.
Ah,
parmi les choses qui le rendent obligatoire, la mort. Quand tu meurs, il faut qu'on te fasse le rousse. D'accord? Sauf, donc l'exception, c'est pour celui qui meurt martyr, sur le champ de bataille. D'accord? C'est bon?
La céphale du rousse, c'est la même? Le mort n'est pas.
On le verra, Chama. On le verra. On va venir après, Kitab Janaza, etc. On va le voir. On va le voir, Alhamdulillah. Taïeb. On finit par cela. ثم يقول إسلام الكافر إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر فإنه يؤمر بالاغتسال في حديث قيس ابن ماذا عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر أخرجه أبو داود الترمذي وقال الترمذي حديث حسن إذن هذا قوله رحمه الله تعالى وإسلام الكافر إذن هذا هو رابع موجب أو موجبات الغسل والرابع الأولى الجنابة الثانية ماذا خروج دم الحيض والنفاس الثالثة الموت ما عدا الشهيد طيب الرابع إسلام الكافر الكافر إذا أسلم لكن الصحيح أنه مستحب لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام ولم يشتهر بين الصحابة اغتسال كل من أسلم لم يشتهر اغتسال كل من أسلم فأما حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمر أن يغتسل بماء وصدق فإنه للتنظف فقط لا للإسلام. الدليل لأنه قارن الماء بالصدر وهناك حديث آخر, حديث ثمامة ابن أثال وقصته عجيبة. حديث ثمامة ابن أثال, فهذا الصحابي كان يغتسل قبل أن ينطق بالشهادتين, اغتسل. قال العلماء هذا اجتهاد منه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك, Donc, le quatrième, la quatrième chose qui engendre l'obligation de l'ghusl, il dit le cheikh Sa'di, lorsque la personne entre en islam, le kafir qui entre en islam, cheikh Sa'di dit c'est obligatoire. D'accord ? Dit le cheikh, et cela en vertu du hadith de Qais ibn Asim, qui a dit, lorsque il s'est converti à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire le ghusl avec deux choses, l'eau et sidr, le jujubier, avec l'eau et le jujubier, comme pour le mort. D'accord ? Donc le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, qui est un hadith hassan, donc qui est acceptable, qui est bon. Donc c'est la quatrième chose qui engendre le ghusl. Mais ce qui est correct, d'accord, c'est que c'est recommandé. C'est recommandé. Rajah, c'est que c'est recommandé. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais ordonné de manière générale à tout le monde. Et il n'est pas connu, provenant des sahaba, qu'ils ont tous fait le ghusl après avoir embrassé l'islam. Il n'y a rien qui a été rapporté. Ni d'Abi Bakr, ni de Omar, ni de Uthman, ni de Ali, ni de Muawiyah. Ils ont fait le rousse lorsqu'ils ont embrassé l'islam. D'accord ? Quant au hadith de Qais ibn Asim, qui a dit donc lorsqu'il a embrassé l'islam, le prophète lui a ordonné de faire le rousse avec l'eau et le jujubier, le ulama a dit ça c'était juste pour le purifier et le nettoyer de ses souillures matérielles, physiques. C'est tout. Mais il n'y a pas de lien avec l'islam. La preuve, c'est quoi ? C'est qu'il lui a dit avec l'eau et le jujubier. Et le jujubier, c'est connu que c'est une chose qui va servir à bien nettoyer, à purifier les impuretés. Comme pour le mort. D'accord ? Il y a également l'histoire de du sahabi Thumama ibn Uthal. Et je vous conseille tous de lire son récit qui est Masha'Allah. Qui était un des chefs des Nasrani à l'époque. Thumama ibn Uthal. Et c'est celui qui a été attaché dans la mosquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète l'a détaché, il a embrassé l'islam. Al-Muhim, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Avant de se convertir à l'islam, il a fait le ghusl. D'accord ? Mais le ulama a dit que cela a été un ijtihad de sa part, c'est tout. Il a fait un effort, il a fait le ghusl, mais le prophète ne lui a jamais ordonné de le faire. Il ne lui a pas ordonné de le faire. Donc lorsqu'on réunit tout cela, à la fin on dit que c'est mustahab, mais non obligatoire. C'est bon, Yahoo. Qui c'est qui avait une question? C'est bon? Alhamdulillah. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.